Et en 3 ans, on a vu énormément le secteur évoluer. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, tout le monde voulait faire de l'intelligence artificielle, du machine learning. Bon, aujourd'hui, les gens se rendent compte aussi beaucoup plus que faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Ça passe d'abord par comprendre ce qu'est une data, à quoi ça sert, comment on la stocke, comment on l'utilise, comment on la maîtrise, avant de faire des modèles de CNN ou de réseaux de neurones super complexes.
Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Mini de Tornaco. Double diplômé de Polytechnique et de HEC, il est fondateur en sortie d'école de DataBird. DataBird est une start-up de formation continue et d'upskilling avec un marché B2B et B2C. Commencé il y a 3 ans et bootstrappé entièrement, ils sont aujourd'hui 17 personnes. Bonjour Alexandre.
Bonjour Marc.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de DataBird? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Ouais, avec plaisir. En gros, DataBird, c'est un organisme de formation. Donc, comme tu l'as dit, en upskilling et en formation continue. Et on va former principalement sur des compétences techniques ou non, mais globalement sur apprendre la data pour le business. Donc la vision, c'est vraiment que la data irrigue tous les métiers, il y a des besoins partout. Et historiquement, les formations étaient vraiment concentrées plus pour des départements informatiques et des ingénieurs. Nous, l'idée, c'est de prendre un petit peu le cheval de bataille inverse et de se dire que même des profils plus commerciaux ou business doivent être en capacité de maîtriser des logiciels comme Power BI. Donc on a, comme tu l'as dit, 3 ans d'existence, on est une quinzaine d'employés. On forme à la fois des particuliers, qui est notre cœur de métier historique. Récemment, on a développé plutôt le B2B. Donc, on travaille avec TF1 ou avec Google et des différentes agences marketing pour former des personnes aux fondamentaux de la data. Mais pas que, aussi, on entend, j'imagine que tu as dû entendre parler du cookie-less world, comme les marketeurs aiment bien l'appeler, disparition du cookie tiers. Gros enjeu aussi à ce niveau-là, au niveau du marketing digital. Un enjeu que nous, on va venir aider à tacler.
Alors c'est intéressant, cet enjeu de disparition des cookies, vous l'adressez directement au moment de la formation.
C'est-à-dire qu'on va aider en fait à mieux valoriser la donnée first party, donc la donnée qui appartient au client. Donc c'est de se dire on a envie d'être moins dépendant d'un cookie d'un prestataire comme Criteo ou autre, et on a envie de valoriser mieux valoriser cette donnée first party. Donc c'est comment je vais la stocker, qu'est-ce qu'un data warehouse, et une fois que j'ai bien stocké mon data warehouse, quelle typologie d'analyse je peux faire. Donc là, c'est par exemple apprendre à coder en SQL pour ensuite mieux la visualiser. Et finalement aussi, il y a beaucoup de marketeurs issus du métier qui n'ont pas connaissance technologique de ce qu'est vraiment un cookie et qui est finalement un traceur qui fait appel au terminal sur l'ordinateur. Et donc bien comprendre aussi ces technologies-là et pourquoi elle est amenée à disparaître ou d'après Google qui ne supportera plus Chrome, qui ne supportera plus les cookies en 2024.
Ok, alors si on refait un pas en arrière, quel est votre état des lieux sur les besoins de formation?
Les besoins de formation, ça va dépendre le secteur forcément, mais globalement, nous, on est assez intimement convaincus de ce que les Américains appellent le lifelong learning. Donc, on doit apprendre tout au long de sa vie, surtout dans la tech. Je pense que tu pourras le confirmer aussi via tes diverses expériences, que les technologies changent assez vite et qu'il faut se former tout au long de sa vie. Il y a plusieurs moyens de se former, bien sûr. On peut s'auto-former, on peut se former par ses pairs au sein de l'entreprise. Et on peut aussi se former avec du savoir qui n'est pas dans l'entreprise, donc avec des prestataires. Nous, on en est l'un d'eux. Et donc, on va former plutôt des entreprises plus traditionnelles qui ont peut-être ce savoir, mais qui est cantonné à un département très... par exemple, le cas d'exemple peut-être plus concret, c'est Publicis qui ont racheté Epsilon, qui est une boîte hyper data, hyper technique. Et en fait, la problématique, c'est que parfois, les profils métiers ne communiquent pas toujours avec les profils d'Epsilon parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Et nous, on vient pour ramener du lien et du lien entre ces profils métiers et ces profils très techniques. Comment on arrive à travailler ensemble, quoi?
Ouais, donc vous allez chercher les profils du côté métier et vous leur donnez une couche de peinture technique pour pouvoir communiquer avec les vrais techniciens, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce vernis technique, en fait, on peut aller plus ou moins loin. Donc on peut aller de l'acculturation, on peut apprendre à commencer à coder en SQL, à faire de la vis, ensuite on peut aller commencer à faire du Python. Et puis plus le profil avance avec nous, plus on va pouvoir l'armer de compétences techniques et technologiques. Et ce qui est assez marrant aussi dans ces besoins en formation, c'est que du coup, ça fait 3 ans qu'on a lancé l'entreprise. Et en 3 ans, on a vu énormément le secteur évoluer. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, tout le monde voulait faire de l'intelligence artificielle, du machine learning. Bon, aujourd'hui, les gens parlent beaucoup aussi de ChatGPT. Forcément, c'est les technologies qui bouleversent un petit peu nos modes de vie et de travail surtout. Mais les gens se rendent compte aussi beaucoup plus que faire du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Ça passe d'abord par comprendre ce qu'est une data, à quoi ça sert, comment on la stocke, comment on l'utilise, comment on la maîtrise. Avant de faire des modèles de CNN ou de réseaux de neurones super complexes, il faut d'abord comprendre le B.A.B.A. Et nous, c'est un peu ce qu'on vient amener aujourd'hui sur le marché français. Et ça, justement, on le voit sur pas mal de profils métiers qui veulent se former pour rester compétitifs sur ces technos-là. C'est assez important pour eux qui se forment à la data pour un peu prendre le train en marche. Moi, j'aime bien l'analogie un petit peu de se dire, on a appris à utiliser un ordinateur, on a appris à utiliser Excel, et maintenant, quelle est l'étape suivante? On commence à apprendre un petit peu, aller un peu plus loin, se dire, si je veux passer d'Excel à la techno suivante, c'est quoi? C'est peut-être Power BI. Ensuite, si je veux comprendre ce qu'il est donné derrière Power BI, c'est du SQL. Donc, c'est un peu dans la continuité des choses, quoi.
Alors, justement, votre méthode pédagogique chez DataBird, c'est quoi?
Et nous, on est fervents défenseurs, comme beaucoup de bootcamps d'ailleurs, de l'apprentissage par la pratique sur des cas concrets. Donc on est intimement convaincu que c'est en faisant qu'on apprend. Et je pense que c'est d'autant plus vrai, plus on avance dans notre carrière, plus on a besoin de mettre les mains dedans pour comprendre. Je pense peut-être qu'on est moins habitué à des concepts, pas abstraits, mais de la théorie pure qu'on a peut-être à la fac ou en école, où on est habitué à toutes ces capacités d'abstraction. Plus on avance dans sa carrière, plus on a besoin de quelque chose de tangible qui est lié à notre univers et à notre quotidien, finalement. Donc ça, c'est super important, c'est qu'on va avoir des cas concrets en finance, en marketing, en opération, sur différentes problématiques et enjeux data. Par exemple, un exemple très concret, c'est qu'on va apprendre à faire un dashboard sur Looker Studio, sur les leviers marketing d'acquisition, enfin les leviers d'acquisition marketing, pardon, pour avoir un meilleur pilotage du budget. Donc c'est un cas très concret. En fait, on va récolter les données de Google Ads, de Facebook Ads et autres pour ensuite faire un pilotage unifié de nos données. Ensuite, on a un accompagnement humain assez fort. Beaucoup de profs, beaucoup d'assistants. On rencontre aussi pas mal de gens du milieu. On fait des talks chaque semaine. Donc, par exemple, on a eu des gens de chez Converteo, qui est une agence de data marketing, avec des boîtes aussi comme Prospect, qui est une succursale de Dentsu, une agence média. Et on a une communauté assez forte, c'est assez important pour nous aussi. Je dirais que c'est un peu le parallèle de la boîte full remote. En fait, tous les gens arrivent à bosser ensemble, mais bosser, et qu'il y a des événements qui sont dédiés pour plus le team building, quoi.
Alors, tu t'as dit un truc intéressant à propos de la sensibilisation au budget dépensé, mais le pilotage du budget dépensé. À ce niveau-là, comment vous faites? Parce que tu parlais de Data Studio, de BigQuery et compagnie. Mon petite expérience avec ces outils, c'est que on n'a aucune visibilité sur les coûts, et qu'on les constate avec un laps de temps de 2 jours après, en allant sur la page dédiée, mais qu'il y a une latence. Et c'est des coûts qui sont quand même très élevés. Ça peut aller vraiment chiffrer vite. Donc, comment est-ce que vous sensibilisez les gens, justement, à cette gestion du budget qui est complètement orthogonale comme sujet à l'utilisation de la donnée, quoi?
Comme tu le disais, c'est des coûts qui sont peut-être difficilement chiffrables de prime abord. Ce qui est pas mal avec Looker Studio, c'est que c'est des connecteurs natifs avec tout l'environnement Google. Et ça, c'est gratuit pour le coup. Donc, ça permet d'avoir des POC assez rapidement. Et si on voit de la valeur, on peut passer effectivement sur des logiciels plus élaborés, comme Looker. Après, il y a aussi à la fois cette notion de coût et à la fois aussi de return sur le projet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui sont assez matures en data, qui utilisent ces technologies-là. Et en partant de ce principe-là, si on fait des projets à haute valeur ajoutée, je pense que les coûts peuvent être dérisoires par rapport à la valeur ajoutée. Mais c'est vrai que c'est important de parler aussi de coûts de stockage, mais qui sont, je pense qu'on l'a tous vu, beaucoup moins chers qu'historiquement. Un data warehouse, avant, ça coûtait beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, on peut arriver un peu à mettre tout et n'importe quoi dedans sans devoir payer des milliers et des cents, du moins au début de l'entreprise, quoi. Et après, nous, ce qu'on recommande, c'est d'engager des profils spécialisés, des data ingénieurs, des data architectes qui, eux, connaissent beaucoup mieux les infras et les coûts associés pour ensuite un peu streamliner et réduire les coûts associés à ces technos-là qui peuvent vite chiffrer. Mais dans un premier temps, ce n'est pas l'enjeu principal.
D'accord. Quels sont les profils qui viennent se former sur DataBird?
Alors, c'est assez marrant parce qu'on a pas mal de profils différents. On a des gens qui sont plutôt issus de la tech. Donc, on a des product managers de chez Celency, par exemple. Je pense à Maxime. On a des gens issus d'entreprises plus, je dirais, traditionnelles. Et encore, c'est un mot un peu fourre-tout. Mais ils sont globalement proches de la donnée. Donc, quand je dis proches de la donnée, globalement, nous, le proxy qu'on utilise, c'est les gens qui touchent à Excel. En gros, Excel, c'est quand même de la donnée. Donc, on a Laura qui était RH chez Decathlon. Donc globalement, c'est une fonction, ça est issu d'un département ressources humaines. On a François qui, lui, est plutôt dans un département finance, donc plus contrôleur des gestions chez CMA, CGM. On a Charlotte qui était en agence en SIE. Donc, ce qui est assez marrant dans cette pluralité de profils, c'est que bah, à la fois, on a des grosses entreprises comme Decathlon, CMA CGM, des agences, mais surtout, et le plus important, c'est des secteurs vachement différents. Donc, du RH, de la finance, du marketing. Ça, ça appuie vraiment le point que, qu'aujourd'hui, la donnée, la compréhension de la donnée et la capacité de produire un dashboard, elle va concerner tous les départements qui, historiquement, ont bossé sur Excel ou qui ont un reporting à faire. On a aussi des gens un peu plus éloignés de la data en pleine reconversion. Et là, on va les accompagner de manière un peu plus exhaustive. Donc, on a Stéphanie qui était infirmière de bloc opératoire. Donc ça, c'est toujours assez marrant de voir une infirmière qui est devenue data analyste. Et on a Nico qui était aussi un gestion. Donc ça, c'est les profils qu'on aime bien aussi accompagner. Là, on va demander beaucoup plus d'investissement de leur part, forcément, parce qu'il y a plus de chemin à parcourir. Et au niveau de la seniorité, on a un petit peu tout. On a des contributeurs individuels, on a des managers. On a eu le CFO Laurent Merlin Portugal qui est venu se former aussi chez nous, donc c'est plutôt au niveau assez senior. Et on a des gens aussi qui sortent d'école. On a des écoles plutôt commerce.
Et alors pour la partie, on va dire, remise à niveau, mathématiques, ouais, ces choses-là qui sont un peu les prérequis, est-ce que vous êtes capable d'accompagner également ?
On est capable de les accompagner. Il faut savoir que nous, on va être plutôt une formation sur la techno en tant que telle. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire... généralement, les gens maîtrisent déjà Excel, donc ça va être plutôt... Enfin, pas généralement, c'est un prérequis, en fait. C'est du SQL, du Python et un logiciel de vise, globalement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter une brique de stats là-dessus, mais c'est le début. Et on va pas faire des modèles de machine learning, on va devoir faire une vecteur propre, valeur propre d'une matrice pour, je sais pas, optimiser l'un ou l'autre paramètre. Ça, on laisse plutôt aux data scientists qui sont purs matheux. Là, c'est plutôt armer un profil métier qui va avoir une forte compréhension de ce que représente la donnée dans son secteur, dans son entreprise, pour être plus efficace dans son travail, mieux automatiser, gagner du temps et pouvoir appréhender un petit peu aussi des données qui viendraient d'autres départements pour fournir ces analyses.
Alors, quels sont les profs qui viennent sur ce genre d'outils ? Quels sont les profils des gens qui enseignent ?
On a des profs, globalement, qui sont issus de la majeure que j'ai faite, donc en data XHEC. On a aussi des anciens élèves. Donc, pour le petit fun fact, on a recruté nos anciens élèves en CDI. Donc, c'est que la preuve, quand même, qu'on a vachement confiance au modèle et que ça marche, qui est maintenant prof et ingé pédago chez nous. Et globalement, c'est des experts sur les outils langage et qui ont une bonne compréhension de l'entreprise, comment elle fonctionne. Et surtout, le plus important, c'est des gens qui aiment transmettre, qui sont passionnés par l'éducation. Il y a quand même une vraie notion de patience, je dirais, et d'empathie dans la formation qui est essentielle. Donc, ça, c'est super important. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que c'est des gens qui sont en freelance. Ça permet d'éviter une certaine redondance, de donner 10-15 fois le même cours. Je pense qu'on perd une certaine partie de sa passion. Donc nous, c'est la problématique, c'est qu'on doit reformer des gens continuellement. Mais au moins, on a des gens qui sont toujours aussi passionnés par ce qu'ils font, quoi.
C'est quoi, selon toi, les atouts de votre approche et les limites ?
Les atouts, effectivement, c'est de garder toujours des gens motivés. Soit c'est en entreprise, dans ce cas-là, c'est des problématiques qui sont relativement différentes chaque fois. Donc ça, c'est super intéressant. Et si c'est des programmes plus B2C, ou si c'est des programmes qui sont quand même bien rodés, on va avoir une certaine continuité. C'est vrai que le fait d'avoir des freelances permet de faire un roulement. Et quand on sent des profs qui se fatiguent ou qui répètent un petit peu un cours machinalement, ça nous permet de faire des roulements. Donc ça, c'est super intéressant. Et la limite, effectivement, c'est la gestion opérationnelle et administrative de notre côté. Il faut savoir qu'un organisme de formation, c'est quand même beaucoup d'administratif aussi, avec des normes comme Calliope ou autres. Bref, je vous passe les détails. Mais globalement, ça demande beaucoup de travail aussi. Donc nous, on a une logique à la fois d'automatiser un maximum cet administratif pour gagner du temps, mais il y aura toujours du temps humain. Et du coup, c'est incompressible à ce niveau-là.
Comment tu décrirais le persona d'entreprise qui est intéressé par le recrutement d'un profil formé sur DataBird ?
Je dirais que c'est globalement beaucoup d'entreprises, si on considère que les profils conformes sont des profils à la fois métier et techniques. Globalement, dans la majorité, ça va être des entreprises qui ont déjà des projets data en cours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont déjà vu l'intérêt de la data dans leur secteur, dans leurs entreprises, ou des projets à forte valeur ajoutée avec gros ROI. Ils disent « Ok, on doit accélérer ». On a peut-être eu un ou deux spécialistes qui l'ont fait. Maintenant, on va devoir avoir quelqu'un plus du métier qui va pouvoir systémiser, apporter un savoir métier sur ces projets-là. Ça, c'est la plus grosse typologie d'entreprise. La deuxième entreprise, c'est une plus petite entreprise qui a été vachement sensibilisée au digital, qui a envie de monter ses premiers projets. Je le mentionnais, je pense qu'un gros projet dès le début, c'est peut-être un modèle au début. Si c'est un abonnement, c'est un modèle de churn, mais sinon, ce sera plutôt un modèle, sans être vraiment un modèle, mais un dashboard qui permet d'unifier les coûts marketing et d'avoir un CAC complet si on fait avec les données CRM derrière. Ça, c'est des dashboards à grande valeur ajoutée. Et ça, c'est des projets aussi que les petites entreprises peuvent être amenées à lancer et du coup recruter nos profils. Donc je dirais deux grands types. Soit c'est les profils qui ont déjà des projets data, soit c'est celles qui sont acculturées à aller au digital qui veulent en lancer. Et le troisième, si je me lâche, c'est un peu les ESN et les SS2I qui ont des gros besoins de recrutement là-dessus. Mais que ce soit en tech ou en data analyse, je pense que ça touche un peu à tout.
Alors au niveau de la demande, des gens qui veulent se former, des entreprises qui veulent former leurs employés, quelles sont les tendances, quels sont les outils qui se démarquent selon toi ?
Et je pense que ça va dépendre un petit peu du secteur. Je dirais que Google est quand même très bien implanté dans tout ce qui va être marketing. Ils sont très forts là-dedans. Après, à prendre avec des pincettes, c'est que mon propre vécu. Tout ce qui va être finance, c'est plutôt des utilisateurs d'Excel. Donc la suite d'Excel, ça va être plutôt Power BI dans les mêmes logiques. Donc il y a un peu ces dichotomies avec le marketing, on va utiliser très friand la suite Google, la finance plus friand la suite Microsoft. Donc on va avoir un petit peu cette bataille entre effectivement un BigQuery avec un Looker Studio par exemple, et puis quelque chose peut-être un peu plus custom avec, je sais pas, peut-être Amazon en cloud qui est un peu moins cher, et ensuite un Power BI derrière. Donc ça, c'est les outils qu'on voit un peu. Historiquement, on voyait beaucoup de tableaux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on est hyper biaisé dans notre approche, étant donné qu'on ne voit pas toutes les entreprises, qu'on n'a pas fait un panorama global, mais je vois moins en moins de tableaux. Ouais. Beaucoup de SQL, beaucoup de SQL aussi, qui est quand même un peu la suite logique. Python, c'est pour comprendre les logiques de code souvent, et puis après, si c'est pour accompagner des profs sur le plus long terme, ça met quand même beaucoup plus de temps de former à Python, qui est un langage plutôt, effectivement, si on doit commencer à apprendre les objets, etc., ça met plus de temps pour faire un beau code bien clean. On fait aussi un peu d'Excel, on met pas mal d'Excel, il y a quand même, je pense qu'il faut se le rappeler, même si on est formation en data, l'Excel c'est de la data, donc en fait il y a beaucoup de gens aujourd'hui en entreprise qui ont encore des difficultés sur Excel et c'est hyper important, c'est la première marche avant de faire autre chose, et puis après des sensibilisations au machine learning ou autre, sachant que moi j'ai quand même une formation initiale là-dedans. Et le dernier point aussi, c'est plus data marketing. On en parlait au début avec les cookies tiers. À la fin des cookies tiers, en fait, on voit aussi qu'il y a pas mal de formations, mais des demandes du moins dans le consent, donc les CMP, compréhension de l'e-privacy, RGPD, comment faire du data sharing avec des data clean room. Donc là, je lâche un peu des buzzwords comme ça. Mais globalement, c'est des enjeux assez importants. Et puis la compréhension aussi d'un MMM, d'un marketing mix modeling. Donc là, c'est plutôt assez niche comme secteur, mais des grands besoins.
Ouais, sur des clients, il y en a combien qui veulent faire du marketing ?
Sur des clients, je dirais en B2B, c'est quand même assez important. Et en B2C, c'est difficile à chiffrer, mais je dirais que ouais, il y a bien un tiers qui viennent du marketing.
D'accord.
Qui est pas mal, sachant qu'on a quand même une vraie pluralité de profils. Donc peut-être que je dirais un tiers marketing, un tiers finance et le tiers autre, quoi.
Alors est-ce que vous servez de la data en interne pour votre business, pour votre développement ? Et si oui, qu'est-ce que vous faites ?
Oui, c'est une super question. On n'est pas encore une multinationale, donc en étant que 15, on ne génère pas non plus énormément de données. On n'est pas non plus une boîte de e-commerce, donc à part peut-être les données d'analytics qu'on a sur notre site, et encore, on n'a pas non plus tellement de visiteurs. On n'a pas énormément à faire. Mais tout ce qui est pilotage de notre budget marketing, on l'a automatisé, on l'a mis sur un dashboard, et on a justement enrichi ça avec nos données CRM. Donc ça nous permet effectivement de piloter la rentabilité selon nos différents canaux. Donc ça, c'est vraiment super important. Et ça, je pense que c'est un des projets essentiels qu'on a aujourd'hui avec de la data. On fait aussi de l'analyse automatisée au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est assez marrant, mais c'est un peu comme ce podcast-là. Enfin, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à poster sur LinkedIn. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser LinkedIn comme un vecteur de communication qui a toujours été le cas, mais aussi un peu plus un vecteur de performance. Mmh. Comment arriver à mieux comprendre l'algorithme, mieux comprendre ce que les gens attendent, du moins les gens dans notre cœur de cible. Et ça, cette analyse de performance, on l'a automatisée aussi sur les différents réseaux qu'on va utiliser. Et donc ça, c'est plutôt un cas communication. Et le dernier cas, c'est le cas plus commercial. Sur notre CRM, on fait beaucoup d'analyses, effectivement, sur la vélocité de nos différents deals. Et ça aussi, c'est des analyses, je dirais, plus par cohorte. Savoir s'il y a des cohortes qui répondent mieux que d'autres en fonction de l'acquisition en amont.
Quand vous segmentez un peu le marché en fonction de vos cycles de vente avec chaque segment, en gros.
Exactement, oui.
Est-ce que tu as une anecdote à partager sur la data ?
Ouais, il y a une anecdote que j'aime bien raconter. C'est quand on était encore étudiant à HEC, on faisait un projet pour une banque et c'était assez marrant de voir que ce qu'on nous avait appris pendant un an à l'X, qui était globalement faire des random forests et des réseaux de neurones, enfin je tire un peu le trait, mais globalement c'est pas mal ce qu'on a fait, donc des maths globalement et un peu d'infos. On est arrivé en entreprise. Le projet, c'était, si je me souviens bien, c'était analyser selon les plans épargne-retraite, qu'est-ce qui a été le choix des salariés. On nous donne la data, c'est des Excel. Il n'y avait pas de data dictionary, donc on ne savait pas ce que représentaient les colonnes. Les données étaient sous les mauvais formats, elles n'étaient pas propres. Et on nous demandait de faire un modèle de machine learning pour prédire les consommations futures de PEA. Mmh. Et ça m'a assez frappé parce que, en fait, l'entreprise, ce qu'elle avait besoin, c'est d'avoir une bonne data gouvernance. Mmh. C'est d'avoir des données clean au bon endroit et bien documentées. Ensuite, c'est de faire des premières analyses plus sur de l'historique ou du présent. Qu'est-ce que les gens utilisent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils consomment? Pourquoi? Est-ce qu'on peut segmenter, faire des typologies de salariés? Enfin, ouais, des segments de salariés. Pour ensuite, après, faire des modèles de prédiction. Et du coup, c'était un peu mettre la charrue avant les bœufs, de dire, nous, on a fait un super modèle d'intelligence artificielle qui marche trop bien. Mais en fait, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé avant ou maintenant. Du coup, c'est un peu pour ça qui nous a poussé à lancer la formation.
Ouais, en fait, être capable de mettre les bons noms sur chaque colonne, relier les colonnes d'une table à l'autre, ce genre de choses.
Exactement,
ouais. Il y a bien plus de valeur là-dedans que dans le modèle de machine learning, quoi.
À court terme, en tout cas, ouais. Hmm. Et puis souvent, c'est difficile de faire le modèle machine learning sans l'avoir fait avant.
Ouais. Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data?
Nous, comme on parlait un peu pas le marketing, je pense que c'est important aussi de relier ça à des enjeux éthiques et moraux. Je pense que c'est important à la fois dans des modèles de machine learning, mais qui dépassent un petit peu le cadre de ce que nous on fait, mais qui est quand même important, dans quelle mesure l'algorithme est responsable d'une décision qu'il prend. Ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants. Et puis les enjeux éthiques et moraux, on parle beaucoup d'écologie, on est assez impliqués aussi, nous, là-dedans. On parle aussi pas mal de décroissance. Si on veut aller dans un modèle qui est plus raisonnable en termes de consommation et qu'on va utiliser la data pour mieux segmenter, donc mieux vendre, en fait, où est-ce qu'on met le curseur entre on prône un modèle qui est viable et un modèle où on essaie de toujours mieux cibler pour toujours mieux vendre? Et c'est vrai que parfois, nous, on ne sait pas sur quel pied danser parce qu'en même temps, c'est super intéressant et en même temps, il faut le faire avec cette conscience-là, quoi.
Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est quoi votre conclusion là-dessus?
La conclusion, c'est que, en fait, pour moi, la data, ça va être plutôt polarisant. C'est-à-dire que si la consommation, entre guillemets, elle est néfaste, on va la pousser vers un côté néfaste. Si on a une consommation qui est plutôt positive, on va la pousser vers une consommation positive. C'est-à-dire que le marketing, ça va vendre et mettre en exergue certains comportements. Donc si, par exemple, on va pousser des produits qui sont, je vais pas entrer dans un débat, mais plus locaux, plus responsables, si on va pousser les consommateurs à prendre connaissance de ces produits-là, pour ensuite mieux consommer, c'est super intéressant. Par contre, si on va pousser des produits au niveau du marketing qui respectent moins l'environnement, dans ce cas-là, on exacerbe les comportements de chacun, quoi. Et c'est ça un petit peu à l'avoir en tête quand on fait ça.
Alors, quel conseil tu donnes aux élèves qui sortent de DataBird?
Un conseil qui vaut pour à la fois quand on sort ou quand on ne sort pas de DataBird, mais qui nous anime beaucoup, c'est de continuer d'apprendre. Je pense que dans la tech, c'est vachement le cas. En fait, quand on développe, il y a tout le temps des nouveaux frameworks qui voient le jour. On va tout le temps sur Stack Overflow, on va se renseigner sur ce qui est sorti. On a quand même ce grand paradigme d'utiliser Google dans son quotidien et dans son travail, un petit peu moins en business. Et du coup, c'est l'idée, c'est de se dire, en fait, la technologie aujourd'hui, elle touche pas que les départements informatiques, elle va toucher tout le monde. Tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise Internet. À partir de ce moment-là, il faut commencer à comprendre comment ça fonctionne réellement. Et puis ensuite, continuer d'apprendre parce que on parlait des cookies tiers, si ça disparaît, en fait, je pense que peu de gens savent ce qu'est un cookie et peu de gens savent ce qui se passe quand on clique à accepter ou refuser quand on va sur Internet. Et ça va risque de changer encore demain, après-demain, et du coup, l'idée, c'est de commencer à apprendre et de continuer à apprendre tous les jours.
Alors, quelle est la suite pour DataBird? C'est quoi les grands chantiers?
La suite pour DataBird, je pense, premièrement, c'est une consolidation, quand même, c'est important dans l'éducation, la formation. Il y a une vraie notion de confiance, donc une vraie notion d'image de marque. Donc c'est à la fois être connu, mais surtout être respecté, et du coup avoir cette image de marque de la data au service du business, mais cette image quand même d'excellence qui nous anime beaucoup. On a vu beaucoup d'organismes de formation avec le CPF. J'imagine que tu as aussi été appelé 10-15 fois par jour pour te demander quel CPF tu avais sur ton compte, moi aussi. Et je trouve que ça a été assez néfaste, négatif pour le secteur. Et en fait, c'est pas du tout ce que nous on prône. Aujourd'hui, le CPF, c'est une aide. Si on en a, tant mieux. Si on en a pas, ça devrait pas être un frein. Mais c'est une aide pour la formation et il y a plein de formations super qui voient le jour. Et on est un peu aux antipodes de cette formation qui vise un démarchage téléphonique et dont le prix de la formation est complètement identique à la cagnotte CPF. Ouais. Donc ça, c'est super important pour nous de bien s'ancrer dans cette logique-là. Ensuite, on aimerait développer nos offres de formation en B2C. Donc là, j'ai parlé vachement de data analyse. Donc on a parlé SQL, Python, Power BI, par exemple. On a envie de s'étendre aussi à des logiques peut-être plus data marketing, donc web analyse aussi, qui sont des grands enjeux. Finance aussi, sur en fait, comment je fais un pilotage plus global de mon entreprise avec une vision plus unifiée de mes données, avec par exemple un data warehouse qui les recoupe toutes. En fait, je peux plus rapidement avoir une vision plus unifiée. Et dernièrement, développer aussi l'offre entreprise qu'on a récemment développée. Donc par exemple, là maintenant, on bosse avec TF1 sur les différents enjeux. Et du coup, c'est de pouvoir aussi développer notre catalogue de formation en entreprise.
Ok, merci Alexandre.
Merci Marc.
Vous venez d'entendre Alexandre Mini de Tornaco, cofondateur de DataBird sur DataDriven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Maxence Cernoux, chercheur chez Rain, pour parler de réseaux de neurones physiques et de leur implémentation. À très vite.